belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un homme à l'œil curieux. Curieux et amoureux d'une terre proche de Montpellier. Une terre qui, comme pour paraphraser Verlaine, une terre qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et je change la fin de ces vers en disant que j'aime et que je comprends. Verlaine me pardonnera cet emprunt poétique. Bonjour Christian Cassiole.
Bonjour Nathalie.
Question d'usage dans cette émission, puisque je vous ai déjà reçu pour un aréopage, mais aujourd'hui c'est pour une belle rencontre, parce que cet aréopage, pour moi, ça a été une belle rencontre. C'est quoi pour vous, Christian Cassiole, une belle rencontre?
Une belle rencontre, c'est déjà une rencontre avec quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on parle de tout, de rien, et on reçoit aussi un retour, le sentiment que porte la personne avec qui on est. C'est une belle rencontre parce qu'on s'en va, on est content. Voilà, on est content, on espère se revoir. On s'est revu à la radio, bien sûr. S'est revu dans d'autres manifestations
à Claret,
aussi,
oui,
à Claret, oui, pour les journées du livre et des arts. Voilà, donc c'est toujours.
Donc c'est une belle rencontre.
C'est une belle rencontre. On ne se voit pas très souvent, mais voilà, c'est une belle rencontre.
À chaque fois, c'est un grand plaisir. Et une belle rencontre, ça peut être aussi un lieu. Et je pense qu'il y a quelque temps, vous avez fait une belle rencontre avec ce Pic Saint-Loup dont on va parler.
Oui, déjà, ça remonte un petit peu. Moi, je ne suis pas montpelliérain, je suis biterrois d'origine.
Vous êtes né à Béziers.
Voilà, je suis né à Béziers, puis je suis parti à la fin de l'adolescence pour travailler, partir sur Paris, d'autres villes. Enfin, j'ai pas mal déménagé. Et je suis revenu sur Montpellier en 81. Bon, ça commence à dater un peu. Et j'ai voulu m'installer en disant je pose mes valises, ça fait 10 ans que je déménage sans arrêt, j'ai posé mes valises. Et j'ai cherché un peu cet arrière-pays, parce que je préfère l'arrière-pays à la plage, j'aime la plage, hein, mais après le monde, etc. Donc j'ai préféré l'arrière-pays, puis pour les balades, les oiseaux, les animaux, etc. C'est plus intéressant. Et du coup, j'ai trouvé un village qui s'appelle les Matelles. J'ai trouvé très charmant, il avait une histoire aussi à raconter, plein de choses. Et je me suis établi là et j'ai découvert le Pic Saint-Loup. Et quand je dis que je l'ai découvert, au départ, c'était assez impressionnant parce que moi, de chez moi, de Béziers, je voyais la mer. Et là, c'était pas une montagne, j'habitais Grenoble, j'avais autre chose en face de moi, mais j'avais ce pic que je ne connaissais pas et donc j'ai cherché à découvrir. Donc dès le début de notre arrivée, en famille, on a pas mal marché autour du Pic Saint-Loup et j'ai eu envie de faire un livre, mais je travaillais dans l'industrie, je travaillais dans les télécoms. Et c'est seulement il y a une vingtaine d'années que je me suis installé comme photographe. Et là, j'ai pu faire effectivement beaucoup de choses autour du Pic Saint-Loup.
Pic Saint-Loup qui, en plus, n'est pas que le Pic Saint-Loup, parce que bon, on parle évidemment beaucoup du Pic Saint-Loup. Hein, mais moi, par exemple, qui habite Corconne, l'ortus est hyper important aussi dans la vision qu'on a du Pic Saint-Loup. Il y a cette réponse
voilà.
En face.
Et cette réponse qui fait que les gens aiment bien et qui pensent qu'ils sont frères. En fait, ils sont lointains cousins. Il y a quelques millions d'années qui sont passées entre la création de l'un et la création de l'autre. Mais effectivement, ils se parlent, ils se renvoient. Il y a cette combe qui est entre les deux, la combe de Fambetou,
qui
permet, voilà, quand on fait des balades, on se retrouve au milieu, on voit les deux côtés. Et en plus, les deux ont un château, alors des châteaux en ruine. Hein. Celui du Pic Saint-Loup, qui est sur le pic, c'est le château de Montferrand. Voilà. Et de l'autre côté, c'est un château qui a plusieurs noms, on peut l'appeler de la Roquette ou de Vivioreuse. Il a été mis à un moment donné pour essayer de montrer au seigneur de l'époque un peu sa force par rapport au possesseur du château de l'autre côté de Montferrand.
Montferrand, c'était les seigneurs de Saint-Mathieu, de Tréviers,
ça a un rapport alors, avec Saint-Mathieu ça appartenait à beaucoup de monde. Et justement, après les guerres de religion, il y a eu des partages et c'est parti aussi au seigneur, donc, qui était un évêque, qui a été propriétaire du château et qui, d'ailleurs, au bout d'un certain temps, après la Révolution, ça a été démantelé. Les gens avaient le droit de se servir des pierres du château.
D'accord.
Alors ça appartenait déjà, le duc de Rohan l'avait assiégé, si je ne me trompe pas, aussi. Il n'a jamais été capturé parce qu'il avait, une défense qui était assez pratique. Alors, juste deux petits mots. Il y a effectivement une opération de réhabilitation du château.
D'accord.
On ne va pas le refaire à tel qu'il est. Donc c'est organisé par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Et il y a un architecte spécialiste justement des bâtiments et des vieux, des châteaux, etc., qui est même docteur aujourd'hui, qui a fait un petit film d'ailleurs. Ils sont en train de restaurer, nettoyer la terre, enlever les souches, enlever les herbes, et ils découvrent au fur et à mesure des nouvelles pierres. Et ils vont, ils ont commencé à tailler des pierres. Il y a des tailleurs de pierres qui ont été formés, tous des bénévoles. C'est une association qui s'appelle Pic Patrimoine, qui est locale aussi. Et ils taillent des pierres pour essayer de montrer comment pouvaient être les arches du château, les portes du château. Les, voilà.
Mais sans, même... faire, sans refaire le château à l'identique.
Non, ce ne sera pas. Voilà. Oui, voilà. Et surtout, c'est un château où il y a des grands pans de murs. L'eau s'infiltre au début, ça explose doucement. Donc, ces grands pans de murs sont dangereux. Donc, aujourd'hui, il est fermé pour sécurité. Il n'est pas ouvert au public. Mais ils espèrent, dans une première phase, ouvrir une partie. Parce qu'ils vont faire les consolidations, etc. Et ça va durer, ça pourrait durer jusqu'à 18 ans, cette restauration.
Oui.
Réhabilitation, pas... je dis, parce que restauration, on a l'impression qu'on va
c'est
refaire...
C'est pas Gueudelon, mais c'est, ça va être long quand même.
Ça va être long quand même, oui.
Vous parliez de... Enfin, on disait que vous, on n'a pas parlé de votre enfance, mais vous êtes né à Béziers. Cette curiosité, ce regard sur la nature, c'est quelque chose que vous aviez déjà, enfant?
Oui, vous savez, quand j'étais jeune, à notre époque, on était dehors, on vivait dehors. En vieux, il n'y a pas de danger, il y a très peu de voitures, on faisait nos propres carrioles, on partait dans la nature. Moi, j'habitais à Béziers, à limite ouest de la ville. Après, c'était d'autre côté, il y avait une voie ferrée, et d'autre côté, c'est de la campagne. Mmh. Donc, on était toujours dehors, dans les arbres, faire des cabanes, des choses comme ça, quoi. Donc, j'ai toujours cette approche de la nature.
Et la photo, elle est arrivée à quel âge?
Bon, la photo, j'en ai toujours un petit peu fait à l'adolescence. Avec
parce que là, dans votre bio, on dit 2006, c'est là où vous décidez vraiment d'y aller.
Mon premier réflexe, je l'ai eu à, j'avais 20 ans. Donc, je faisais de la photo, un amateur, je faisais beaucoup de photos, je faisais quelques expos, pas beaucoup. J'ai aussi, je me suis occupé d'un photoclub aussi où je faisais la formation.
Et vous avez tout de suite acheté un bel appareil
D'entrée, j'ai acheté un réflexe. Ouais. Ce n'était pas le summum de la marque. Donc, c'est une marque qui est très connue, qui existe toujours. Et je suis resté fidèle à cette marque. Alors, certains parlent de doudou maniaque. Moi, ce n'est pas ça. C'est en fait, on achetait des objectifs, on achetait des flashs. Et ça, en chaîne, il faut tout changer. Donc, progressivement, quand j'ai acheté un nouvel objectif, eh bien, voilà, progressivement, je suis arrivé à 50 ans après. Être avec, c'était Nikon. Voilà.
Mais c'est bizarre que vous disiez ça, parce que moi, j'ai beaucoup fait de photos à mes 20 ans. Et beaucoup de portraits. Moi, c'était un Pentax. Et je me souviendrai toujours de la marque de mon premier appareil photo. C'était un achat quand même à l'époque, quand à 20 ans, on achetait soit un Nikon, soit un Canon, soit un Pentax. C'était un achat cher quand même. Hein. Oui. Les objectifs, les filtres, les optiques.
Voilà, oui.
Qui avait vraiment. C'était un gros investissement, c'était cher.
C'est ça, c'est pour ça que vous avez un appareil photo. Parce qu'ils se font la course, il y a deux ou trois aujourd'hui, il y a plus que deux ou trois qui se font la course à la nouveauté. Donc il y a certaines personnes qui vendent de tout, qui rachètent tout pour la nouveauté, mais après ils sont coincés. Et on se fait avoir beaucoup de sous, on perd de l'argent à revendre d'occasion ces appareils. Donc au fur et à mesure que moi je rachetais des objectifs ou un flash qui était plus performant, etc., j'avais quand même tout derrière, toutes les optiques que j'avais déjà. Ça m'embêtait de tout revendre.
Bien sûr.
Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas un doudou maniaque de Nikon, mais je suis resté fidèle à Nikon.
Et c'était à baïonnette ou à vis?
C'était à baïonnette. D'entrée, c'est à baïonnette.
Ça existe toujours, ça, les différences?
Oui, il y a encore quelques appareils photo avec des vis, mais c'est plutôt du vintage, quoi.
Ouais.
Donc, sinon, la baïonnette est passée. Et Nikon a changé sa baïonnette après longtemps. Canon l'avait fait quelques années avant. Donc, pour justement agrandir un peu la surface du capteur, la surface de l'objectif, dont les lentilles, enfin bon, c'est de l'optique.
C'est technique, mais en même temps, ça me passionne, parce que c'est vrai que bon, quand on achetait un réflexe, on achetait un réflexe avec un 50 mm, et puis après, moi, la première fois que j'ai mis un grand angle, donc c'était un 28 mm que je m'étais acheté, tout d'un coup, par exemple, la nature, vous qui faites des photos de nature, ça donnait une dimension complètement dingue, et je m'amusais beaucoup plus en définitive avec le 28 mm qu'avec le zoom, c'était un 70-200 que j'avais. C'était sympa le zoom, mais la vraie dimension pour moi, c'était le 28 qui a changé complètement le regard.
Voilà, mais en fait, j'ai effectivement fait la même démarche que toi. C'est-à-dire que j'avais un 50 mm d'entrée, puis j'ai eu un grand angle parce que j'aimais bien les paysages. Et puis je suis quand même assez vite passé à un téléobjectif. C'était pas un Nikon, c'était une marque qui s'appelait Soligor à l'époque. Et là, on constate les progrès énormes qu'ont fait les opticiens d'appareils photo et d'objectifs, tout simplement grâce à l'informatique qui a permis de faire des calculs différents, etc. Donc aujourd'hui, on a l'optique dont je parle, c'était un 400 mm, il n'était pas très cher.
400, mais c'était
un peu décevant au niveau des résultats. Ouais. Aujourd'hui, les objectifs en général des principales marques, tout est bon. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Et il n'y a pas eu que ça, il y a le changement de l'argentique, le passage au numérique.
C'est ce que j'allais vous demander, Christian. Voilà. Quand est-ce que vous êtes passé de l'argentique au numérique ?
Alors, c'était un peu long. J'ai acheté un premier appareil photo bicorps, chez Nikon aussi. C'était un bicorps, on pouvait tourner d'un côté ou de l'autre. Et il faisait 3 millions de pixels. Qui n'était pas un réflexe. Hein. Mmh. Et je l'ai gardé assez longtemps, celui-là, en gardant toujours, bien sûr, l'argentique. Et puis, je suis participé à un concours international et j'ai gagné un troisième prix. Et la photo, elle était faite avec le petit. Elle n'a pas été faite avec le réflexe.
Oui, parce que 3 millions de pixels, il faut dire quand même qu'aujourd'hui, c'est ridicule. Quoi. Enfin, un téléphone portable fait 12, 20, je ne sais pas combien. Voilà,
aujourd'hui, dans les réflexes, le maximum qu'on trouve, c'est du 65 millions de pixels. Ouais, ouais. Mais il y a Hasselblad qui fait des objectifs avec 5 millions de pixels ou plus. Quoi. Mais c'est du type 6-6, si vous voulez, hein, si vous voulez un rapport. Il y a eu donc l'argentique qui est passé donc avec l'arrivée du numérique. Et là, il y a eu un gros changement pour moi, mais pour beaucoup de personnes, et beaucoup de professionnels, ou même de magasins photo. Tout ça est arrivé en même temps que développement d'Internet, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont un peu laissé tomber le réflexe, et sont restés ils sont passés au numérique. Mm-hmm. Et il y a une seconde vague qui est arrivée, c'est les hybrides, ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire c'est toujours de l'informatique dedans, hein, c'est toujours un capteur, mais la façon dont c'est géré est totalement différente de ce qu'il y avait avant. Nikon en a profité pour Canon aussi, ouvrir la taille de ses objectifs, la taille de sa baïonnette plutôt, les objectifs viennent avec la baïonnette, de manière à gérer davantage et plus facilement les rayons de la lumière, hein, de lumière qui vont à toucher le capteur. Et là aussi, il y a eu un progrès. Alors, moi, je dis ça, hein, je me mouille,
mais
je sais qu'il y en a qui ne mordent que... Non, ils ne veulent jamais passer à ce qu'on appelle l'hybride.
Ouais.
Ouais. Mais moi, je trouve... Le mien, par exemple, il n'a plus d'obturateur.
D'accord.
Voilà, il n'a plus de rideau. On est directement dans le capteur. Et alors, il y en a qui le faisaient un peu avant, mais il avait quand même un miroir. Donc le miroir qui remontait, qui redescendait, pendant ce temps-là, on perdait, on n'avait pas la vision. Avec les nouveaux, on garde toujours, on a l'œil au viseur et on voit toujours ce qui se passe dehors. Donc ça peut être intéressant pour le sport, pas pour le paysage, ça ne sert à pas grand-chose pour le paysage.
Cette connaissance technique, purement technique de la photo, vous l'avez fait par vous-même, vous avez fait des stages, comment ça s'est passé?
J'avais fait un peu d'optique dans mes études, et donc je comprenais le système, la partie lumière. Je serais Montpellier d'ailleurs pour m'occuper de la fibre optique, ouais, la lumière ça, c'est toujours un lien.
Ouais.
Donc là, il n'y avait pas de souci. Après l'informatique, ça a été aussi une de mes occupations.
C'était pas difficile. Moi, je sais que j'ai eu du mal autant. Je mitraillais quand c'était l'argentique, autant quand je suis passée au numérique. Alors, je me rappelle, mon numérique, on me l'a offert pour mes 50 ans. Donc, ça fait 15 ans que je suis passée au numérique. Et quand même, mon réflexe numérique, je l'utilise moins que j'utilisais l'argentique avant. Même si l'argentique, ça avait un coût, parce que c'est sûr que moi, j'ai... Enfin, c'était très cher. Vous tiriez tous les tirages vous-même, hein ?
Oui. Alors, au début, je faisais que du noir et blanc. Et puis, quand je suis arrivé à Montpellier, on avait créé un photoclub. Et là, on s'était équipé de développement couleur. Principalement, ce qu'on appelait à l'époque le cibachrome. Donc, à partir de diapositives. Ça se faisait en plein jour. Hein. Mm-hmm. C'est une cuve qu'on remplit dans la nuit.
Mais après, voilà.
Seulement, c'est au quart de degré près. Mm-hmm. Les produits valaient une petite fortune. Et il fallait les utiliser de suite. Alors qu'en argentique noir et blanc, on arrivait à conserver un peu les produits plus longtemps. Donc, c'était très, très peu utilisé. Le noir et blanc fonctionnait très bien, mais la couleur n'a pas accroché. Et ce qui a tué le club, en fait, c'est l'arrivée du numérique.
Bien sûr. Hein,
parce que les gens ont basculé dans le numérique, c'était plus facile, on le fait sur ordinateur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font leurs photos avec un iPhone ou un Android. Hein, et en fait, ils n'en font rien de leurs photos.
Bien sûr.
Ils ne les tirent plus. Ils les regardent maintenant sur l'ordinateur, mais...
Ouais. C'est pas le même charme. Avant de marquer notre première pause musicale que vous avez choisie pour nous, on va parler en deuxième partie d'émission donc Le Pic Saint-Loup, La Perle des Garrigues qui est sorti chez Alcide. Juste rappeler que c'est pas votre premier livre. Il y en a déjà presque une dizaine, non au moins.
Bah, deux livres qui passent par un éditeur, c'est le septième.
Septième.
Voilà. Après j'ai fait des livres, ce qu'on appelle des livres d'auteur. Dans ces livres à diffusion confidentielle, ce sont des photographies. Il y a toujours un peu de texte, mais soit poétique, soit daiku, façon japonais. Et ce sont des livres, ce sont des photographies originales qui ont été reliées. Donc il y a tout un système pour relier, pour plier la photo sans la casser. Et on relie ça avec à la main, avec une aiguille et de la corde, un peu comme les anciens cahiers que j'avais, peut-être toi aussi, quand on était jeune, à l'école. Quoi, ouais.
Et vous vendez aussi toujours les grands formats. On peut acquérir des photos sur grand format, voilà. Sur poster un peu solidifié, c'est ça, alu ou plastique?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a des lois. Hein. Mon statut, c'est auteur-photographe.
D'accord.
Donc, auteur-photographe, pas parce que j'écris des livres. Hein. J'étais auteur-photographe, c'est un métier de photographe.
Auteur, moi, je suis auteur en photo.
Et auteur-photographe. Voilà. Donc, on a des normes pour la photographie. Par exemple, une œuvre originale, c'est, on peut attirer au maximum à 30 exemplaires. Bon, moi, je trouve que c'est trop. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et on doit le faire de A à Z. Et donc, je suis équipé je peux tirer du A2 chez moi.
D'accord.
Ensuite,
c'est 2x3.
C'est 2x3, ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est
4 fois 4, quoi. Voilà, c'est 4 pages. C'est grand quand même. Hein.
C'est grand, voilà. Ouais. Donc, c'est une grande machine qui prend la place. Mmh. Après, il y a des tireuses plus grandes qui peuvent tirer davantage. J'ai aussi un rouleau, je peux faire du rouleau, c'est-à-dire que je peux faire des posters, donc qui ont la largeur du A2. Et la longueur que je veux, quoi. Enfin, entre guillemets, que je peux.
Tout ça, on en parlera en fin d'émission, Christian, pour que les gens aillent sur votre site. Il y a un site très bien fait. On va marquer notre première pause musicale, qui sera d'ailleurs la seule. Et c'est Angie des Stones. On écoute tout de suite et on remercie Adrien, qui est derrière la vitre et qui nous enregistre aujourd'hui. Thank you. c'est comme ça qu'on quitte Engie pour arriver aux abords du Pic Saint-Loup. Mon Dieu, que le voyage est long entre les Stones et Pic Saint-Loup. Christian Quessiol, j'aimerais vraiment qu'on parle du livre, parce que c'est un très beau produit. C'est aux éditions Alcide, qui font des très beaux livres. Hein. On travaille beaucoup avec eux. Enfin, un livre magnifique sur Montpellier, la protestante, justement. Il y a beaucoup de textes protestants chez Alcide. Ce livre, ce n'est pas tout à fait une première. C'était votre premier livre.
Oui, quand je suis arrivé...
Comme sujet, en tout cas.
Oui, quand je suis arrivé à Montpellier, effectivement, j'étais admiratif de ce Pic Saint-Loup. Donc, je l'ai découvert en long et en large. Et puis, en 2006, je me suis mis à mon compte comme photographe. J'avais une idée déjà depuis quelque temps, c'est de faire un livre sur le Pic Saint-Loup. Voilà. Donc, j'ai fait un premier livre tout à fait par hasard en rencontrant un éditeur qui s'appelait Christian Lucet. Et il m'a dit, bah, vas-y, je te laisse carte blanche. J'ai mis combien de pages? Il m'a dit, bah, pas de problème. Puis finalement, donc, je lui ai donné un livre de 350 pages. Évidemment,
il aurait peut-être pu mettre les limites.
Oui, ouais, moi, je ne connaissais absolument rien dans le métier d'éditeur. Hein, je ne connais pas grand-chose aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai bien compris une chose, c'est que si à 350 pages, on passe à quelque chose de raisonnable pour que le prix de vente reste quand même accessible. Il a fallu enlever. Et donc, ça fait mal au cœur. On doit enlever beaucoup de choses. Et il est un peu touffu, etc. Bon. Et puis, c'était mon premier. Donc, je ne savais pas faire. Voilà. Et donc, ce premier m'a permis d'en faire un autre derrière, d'en faire d'autres un peu sur toutes les parties de la région, de Saint-Guilhem, Navacelles, jusqu'au Montégal, le littoral, etc. Un seul livre sur une même ville, qui avait une particularité, c'est que j'ai fait ce livre avec uniquement les photographies. J'étais parti pour un livre classique avec les deux, et puis mon éditeur avait sous les coudes un écrit d'un prof qui, je crois, que tu as usé, tu as agrégé, et qui sa famille t'a 7. Et lui, il lui avait proposé des textes. Lui, il écrit beaucoup de textes. Il écrit pour d'autres photographes d'Alcide aussi. Donc, il m'a dit, bah, tiens, on va faire un mélange des deux. Et c'est mon éditeur qui, j'avais travaillé par quartier, l'autre aussi. Donc, il a mis le texte en face. Voilà, c'était une nouveauté.
Bientôt la comédie du livre, ils vont vous faire signer. Vous serez sur le stand.
Alors,
un beau stand, Alcide. Ouais.
Voilà, il est prévu que je sois 3 jours sur la comédie du livre.
Donc, le
vendredi, samedi, dimanche, je n'ai pas encore les horaires. Bon,
donc, chers auditeurs, si vous entendez cette émission aujourd'hui, que vous voulez acquérir le livre et rencontrer Christian Quessiol, c'est à la mi-mai, je crois, 13, 14, 15 mai.
C'est ça, c'est le week-end de Pentecôte.
Voilà, tout à fait. Christian, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu d'historique. Donc, le livre, c'est 10 balades que vous proposez,
une dizaine de balades
autour du Pic Saint-Loup. Et peut-être revenir à l'histoire du Pic Saint-Loup, c'est-à-dire comment elles sont nées, ces deux montagnes, Pic Saint-Loup-Ortus.
Oh, ça remonte à loin. Hein.
Ouais. On n'était pas nés ni l'un ni l'autre.
Non, on n'était pas. En fait, au moment de la formation de la Terre, il y avait beaucoup d'océans, hein, toute la région de Montpellier, la région du Pic Saint-Loup, justement. Hein. Et c'était sous l'eau. Et il y a eu différents phénomènes géologiques qui se sont produits. Et les Pyrénées sont nées. Quand les Pyrénées sont nées, elles ont un peu poussé. Et donc, ça a créé un certain nombre de plissements, dont celui du Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, il a basculé un peu, il est monté très droit, ce qui fait qu'il a un côté de la falaise et puis le côté de plissement, par où venait la force qui l'a poussé. Il était monté, alors je n'ai plus la hauteur exacte, mais il était beaucoup plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein, c'est l'érosion successive, un peu comme les monts d'Auvergne, vous voyez, on les voit, c'est des petits ballons. Donc, il ne fait pas la même chose, mais en tout cas, il a beaucoup diminué. Effectivement, quelques millions d'années plus tard, c'est un autre mouvement qui a fait que c'est créé la combe de Fambetou, donc c'est une combe qui est entre l'Ortus et le Pic Saint-Loup, donc qui s'est creusé et né l'Ortus.
Et la route entre Saint-Loup et Prades.
Voilà, une très belle route, sympathique.
Dans un endroit que je trouve magique, qui s'appelle le Gardiol, qui est une maison qui est à la sortie. Il y a cette vieille maison, je ne sais pas qui a cette maison, mais c'est magnifique. Et le Pic Saint-Loup, pourquoi Pic Saint-Loup? Ça vient d'où au niveau étymologique?
Alors, le Pic Saint-Loup, c'est... Il y a pas de... J'ai pas trouvé d'étymologie propre. Par contre, j'ai une légende.
Ah.
Voilà, une légende des trois ermites. Donc, il y avait, ça date des temps des Templiers et des guerres saintes. Donc il y avait des trois chevaliers qui étaient amoureux de la même princesse. Donc aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Pas de la femme, des droits de la femme. Et à cette époque, ils étaient amoureux de la même femme. Et c'était cornélien parce qu'elle aussi, elle les aimait bien tous les trois. Et donc, ils sont partis à la guerre et elle avait dit « J'épouserai celui qui aurait été le plus vaillant ». Mais quand ils sont rentrés tous les trois, bien, elle était décédée. Voilà. Donc, ils se sont tous, les trois, retirés sur un mont. Voilà. Et Lou s'est retiré sur le mont, sur le pic Saint-Loup. Après, sur les deux autres, il y a des variantes, parce qu'un, c'est sur le mont Saint-Clair. Et l'autre, c'est plutôt sur un mont de la pays du Gard, ou du Gard, ou même de l'Aveyron, je crois.
Au Carroux ?
Non, au Carroux, c'est chez nous. C'était ma montagne quand j'étais jeune.
Et voilà, c'est Carroux. Plutôt derrière Béziers. Oui. Il y a évidemment des lieux extraordinaires. Bon, en début de livre, vous faites une petite carte. Elles sont très jolies d'ailleurs, ces cartes. Hein, elles sont très bien faites sur les villages déjà. Alors parlons des villages. Moi, il y a très peu de temps, ça fait 35 ans que je suis à Montpellier, presque 40, je ne connaissais pas Saint-Jean-de-Cuculle. Quel joli village! J'ai fait le sentier botanique de Saint-Jean-de-Cuculle. Mmh. Mais tous les villages sont beaux, Casvielle, les Matelles, le Triadou, Valflonès, c'est ravissant aussi. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de photos de villages, c'est plutôt des photos de nature. Mais il y a quelques lieux quand même.
En fait, on parlait du premier livre tout à l'heure. Le premier livre, j'avais voulu traiter un circuit qui partait de Murles et qui revenait sur les Matelles, exactement comme celui-là. Mais par contre, j'ai travaillé tous les villages qui sont, on va dire, à l'intérieur de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup aujourd'hui, enfin de l'ancien, non pas du Grand, du Pic Saint-Loup d'avant. Je ne traite pas la partie dans ce livre sur la vallée de la Bouège, par exemple, que je traite ailleurs. Et il y a des villages qui étaient très intéressants, vous avez cité. Il y en a d'autres qui étaient intéressants ponctuellement, parce que sur un, par exemple, il y avait un orage qui avait détruit le clocher de l'église, et puis au moment où je faisais le livre, il y avait une reconstruction, des compagnons avaient construit avec des charpentes, enfin bon, bref, donc j'avais mis ça, mais tous n'étaient pas à égalité au niveau de l'architecte, de l'intérêt. Et donc, quand j'ai refait ce livre, je m'en suis tenu uniquement j'ai mis l'accent que sur certains villages, très peu d'ailleurs, c'est ce que tu faisais remarquer. Et même au départ, mon éditeur m'a dit « Non, t'as oublié les villages ». Non, je ne les ai pas oubliés, mais si je les rajoute, ça me fera 150 pages de plus.
Là, on repart vers les 350 du début.
Exactement. Donc, j'ai dit « Non, là, j'ai fait un autre choix. Hein. Ce n'est pas le même livre. C'est un livre sur le Pic Saint-Loup, mais ce n'est pas le même. »
Bien sûr.
Donc, y a les balades sont nouvelles, y a les photos sont nouvelles, 95%. Et donc, j'ai traité également le vin avec un vigneron. Enfin, plusieurs vignerons.
On va en parler à la fin de l'émission. Je voulais vraiment vous entendre sur le vin, parce que c'est aussi quelque chose qu'on a partagé à un moment. Bien sûr, il y a le chemin des Verriers, hein, qui est important aussi, qui finit à Claret.
Voilà, les Verriers qui commencent là sur la visite à Ferrer les Verreries.
Donc, il faut dire un peu où c'est, Ferrer.
C'est au nord de.
C'est sur la route de Gange.
Du Pixel, ou sur la route de Gange.
Parce qu'en effet, c'est un grand V entre la route de Gange et celle de Quissac.
Ouais, c'est ça. Oui, un grand V là.
Grand V.
Ouais. Enfin, c'est au-dessus de. C'est le Cos de l'Ortus. Donc, on parlait de la falaise de l'Ortus, tout ça, parce que c'est ce qu'on voit le mieux, hein, la falaise de l'Ortus. Mais en haut de la falaise, tout le dessus, ça s'appelle le Cos de l'Ortus. Et sur ce Cos, qu'il y a le village Ferrir les Verreries.
D'ailleurs, cette impendance, depuis qu'on en parle, c'est vrai que je pense au livre de Didier Amouroux, où il explique les rapports entre les gens de Viols-le-Fort qui n'avaient pas l'eau et les gens de Prades qui l'avaient. Et c'est vrai que, franchement, si un jour vous relisez les livres de Didier Amouroux, lisez-le avec le livre de Christian Cassiol à côté, parce que ça illustre vraiment bien ce dont il parle de cette espèce de grand V là au-dessus de Montpellier et avec la vie de ces villages, et notamment on parlait de ces verriers, donc de ces verriers qui commencent à Ferrières les Verreries, donc
pour chez nous, voilà, les Ferrières les Verreries, et qui arrive à Sommières, parce que les verriers se réunissaient à Ferrières, c'est là où vous avez leurs assemblées générales, leur conseil d'administration de l'époque. Sachant que pour être verrier, il fallait avoir quand même être de noble naissance.
D'accord. Voilà. Les ouvriers, si vous faisiez partie du bas peuple, non?
Non, pour être verrier, il fallait vraiment.
D'accord. Voilà. Bon, que j'y aille d'ailleurs à la Halle du Vert, c'est à 3 km de chez moi, j'y suis jamais allé.
Alors voilà, mais ce qui est intéressant dans notre secteur, le secteur du livre, c'est qu'effectivement, on part de Ferrir les Verreries, où il y a une ancienne verrerie qui a été restaurée. Ferrières-les-Verreries, c'est un petit village, c'est très mignon, mais c'est un village. Mais par contre, tout autour, on retrouve des fours de verriers, on retrouve plein de choses. tout ce plateau et a vécu avec les verriers. Tout simplement parce qu'il y avait la matière première qui était là. Donc aujourd'hui, on en voit moins, puisque beaucoup d'arbres ont disparu. On a aussi un autre endroit où il y avait une verrerie, c'est maintenant un site départemental. Donc c'est intéressant parce qu'il surplombe aussi la vallée, donc Claré, Valfonesse, tout ça. Et puis Claré a eu quelques verriers d'aujourd'hui. Malheureusement, il y en a un qui a fermé parce que
c'était difficile.
Un métier difficile, mais en plus il était âgé, et puis il y avait aussi question de pouvoir d'achat certainement. Mais par contre, il a été installé à Claré, la grande halle du verre, donc qui est
en plein cœur du village.
Ouais. C'est la communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup qui gère ça. Et là, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses, des expositions qui sont tout le temps. Et puis des expositions qui sont provisoires, qui viennent de partout. L'année dernière, c'était magnifique. Enfin, si je connais, c'était magnifique. C'était des verriers qui venaient des pays nordiques.
Oui, voilà. Je me rappelle de l'affiche.
Voilà. Et c'est magnifique. Il y a des choses qui sont. Voilà. Et il y a un souffleur, il y a un monsieur qui vient de présenter comment on peut faire du verre, etc., et qui fait à la demande.
D'accord.
Vous dites, moi, j'aimerais avoir ça, mais ils peuvent le faire devant vous.
Ah ben, on va demander ça, on va donner ça comme idée à Thierry Arquet pour son prochain salon du livre.
Il s'appelle Monsieur Domise Guillaume.
Eh ben voilà, on le cite.
Et ce monsieur est dans le livre, c'est un verrier. Alors, les verriers ne sont...
Ça, c'est lui, par exemple Ah oui, Guillaume Domise.
Ouais. Ça, c'est une photo qui est prise à la Halle du Verre, justement, il y a quelques années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et un second verrier, et ils ont tous les deux leur atelier à Vacquières.
D'accord.
Voilà, ils sont côte à côte à Vacquières. Et l'autre, par contre, il sable. Il a un four et il lance du sable sur le verre.
Vacquières, qui est un des villages le plus haut par là pour.
Voilà,
avant d'aller dans le Gard.
C'est un continu, voilà. Ouais. C'est pas loin de Quissac, Corconne.
Tout à fait.
Et on voit sa création donc, à ce monsieur-là qui fréquente vraiment des choses sympathiques.
Et puis après, il y a toute une période aussi magnifique dans le livre sur la photo animalière, enfin d'insectes. Animalière, non, parce qu'il n'y a pas que des insectes. Il y a des phasmes, il y a des flores. Voilà,
faune et flore, voilà.
C'est aussi un sujet qui vous intéresse?
C'est un sujet qui m'intéresse, et à part sur le livre de Sète, j'ai toujours essayé de mettre à peu près au milieu du livre les animaux, les fleurs, les insectes que j'ai rencontrés lors de mes balades. Parce qu'un livre, c'est un an et demi, un an de création, puis après 3 mois, on va dire, de mise en forme. Donc, entre un an et demi, où je suis toujours dans la nature.
Après, c'est une région où il y a beaucoup de balades, justement, découvertes botaniques, découvertes des fleurs, des plantes comestibles. Je sais qu'il y a les leuzières, les écologistes de leuzières, qui proposent aussi des balades comme ça. C'est passionnant à faire, hein, les balades où on prend de la roquette sauvage, où on voit tout ce que vous mettez là en gros plan. Il faut s'arrêter. Par contre, bon, là, c'est sûr que les lubellules, là, elles sont magnifiques. Hein, je le dis aux auditeurs, je découvre le livre en même temps. Hein, Christian me l'a amené ce matin. Et c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. À s'acheter, à s'offrir et à offrir, vraiment les deux. Ça, là, c'est un phasme, ça. Oui, c'est ça.
Oui.
Ouais, c'est passionnant. Et puis, le livre, vous le continuez avec les oiseaux, évidemment. C'est une région riche aussi en oiseaux. Hein.
Oui.
De moins en moins.
De moins en moins.
C'est un problème.
On le voit. Bon, les gens de ma génération se souviennent que lorsqu'ils partaient en voyage en voiture, le soir, ils devaient nettoyer le pare-brise. Il y avait des insectes collés partout. Aujourd'hui, vous partez, vous avez peut-être un ou deux insectes collés sur votre pare-brise. Donc, s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux.
Et voilà. C'est vrai. Et vous finissez sur un sujet, il nous reste 5 minutes pour en parler, sur lequel je vous avais demandé votre aide, parce qu'on avait tourné, enfin on avait produit une émission sur le vin et l'eau, et j'avais été vous rencontrer sur un parking des Matel, et vous m'aviez parlé justement de ces rapports-là. C'est comme ça qu'après j'avais rencontré le président de la cave de Corconne. Ça ne va pas me revenir le nom, mais enfin bon, voilà, vous connaissez. C'est une passion pour vous, la vigne?
Alors, moi, j'ai toujours vendangé, à partir du moment où j'ai eu l'âge de le faire, parce que mon père avait un collègue de bureau, c'était pas un vigneron au sens professionnel du terme, il travaillait dans la même entreprise que mon père, mais il avait quelques vignes par héritage. Et donc, j'allais vendanger chaque année chez lui. C'était des vignes qui ressemblaient pas du tout aux vignes d'aujourd'hui. puisque en fait, vous prenez une souche, elle s'étalait sur 3 ou 4 ans, quoi. Et à ras de terre, dans la boue, voilà. On faisait du vin rouge à l'époque. C'était un peu de la production au régime. Et effectivement, après, sont arrivés les gens qui ont commencé à réfléchir à changer les choses dans les vignobles pour aboutir, il y a très peu de temps, à une appellation à nom propre au Pic Saint-Loup.
Voilà, qui a du succès, hein, qui est apprécié, qui est reconnu, avec quelques appellations bio, même pas mal dedans.
Oui, oui.
Moi, je ne suis pas dingue du vin bio, mais bon...
En fait, c'est l'air du temps. Je me souviens d'un vigneron, je ne dirais pas son nom, parce qu'il avait raison, enfin, c'était mon avis aussi, pour ça que je dis qu'il avait raison. Et il m'a dit, oui, moi je fais du bio, parce que si je ne fais pas du bio, je ne le vendrai pas.
Ouais.
Voilà, à partir du moment où il y a du bio. Mais il m'a dit, je charge mon tracteur deux fois plus longtemps, parce qu'il sort deux fois plus souvent. Forcément, je consomme deux fois plus de gasoil. Il m'a dit, bon, c'est vrai.
C'est bio, mais pas écolo.
Je suis en bio, voilà, pas écolo. Et ça rejoint un peu la réflexion qu'on s'était faite lorsque tu me parlais de l'eau, hein, il y a quelques temps, donc avec cette interview-là. L'eau, c'est pareil. La vigne, c'est pas quelque chose qui a besoin d'eau, mais aujourd'hui, avec les sécheresses, le climat qui change, il y a besoin de mettre de l'eau dans la vigne. Et il y a aussi des forages. Les forages, ils sont hors contrôle.
Oui.
Voilà. Donc, on peut arroser une vigne bio avec quelque chose dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
À Corconne, par exemple, en ce moment, ils sont en train de chercher l'eau comme ça. Je ne sais pas ce que ça donnera. Et puis il y a des très belles photos aussi de choses du vin qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire la vinification. Même cette photo en quatre parties là, sur la palette des couleurs du vin, de la transformation, du mou. Hein, je ne sais pas si c'est mou.
Il y a un peu de tout.
De travailler aussi sur cette partie-là du vin qu'on n'a pas.
Cette photo, excusez-moi, je lui montre. C'est une photo du vin qui sort du pressoir et qui rentre. Il vient de la vendange et il rentre dans la cuve, voilà.
Et puis vous nous conseillez ou vous rencontrez, alors je ne sais pas, ce n'est pas des conseils, c'est des histoires sur certaines caves, hein, le domaine du Holyroux, il y en a un qui est connu, le Pêche-Thor, et puis la Costesse, je les cite tous, hein, comme ils sont, et le Villeneuve qui est assez connu aussi.
Oui.
C'était vraiment important pour vous de finir le livre en accentuant sur cette identité vinicole ?
Oui, oui, parce que d'abord... Partout où on se promène dans les bois, on passe chez des propriétaires terriens. Alors certains n'ont pas de vignes, mais beaucoup ont aussi des vignes. Et ils nous permettent les balades, ils permettent au chemin de passer, etc. Donc ça, il faut le respecter. J'essaie de l'expliquer chaque fois que je montre une photo. Je dis attention, là c'est privé, on vous laisse rentrer, mais faites attention de ne pas faire n'importe quoi. Et j'ai eu envie, c'était un des thèmes que je voulais traiter, c'était la cave. J'avais déjà fait des photos, des explications sur plein de choses sur la vigne, mais je n'avais pas traité la cave. Et là, il y a un vigneron. Tu l'as cité, c'est effectivement celui de Claret, hein, Villeneuve, qui est à la fois producteur de miel. Donc, j'ai suivi les vannages avec lui, je l'ai suivi en cave, et tout le travail en cave vient de lui, mais pas que de lui. Et c'est pour ça que ceux qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué, qui m'ont apporté beaucoup de choses, ils sont cités en nom propre. Et je fais un petit portrait, on va dire, de ces vignerons-là. Je ne pouvais pas le faire pour tous, parce qu'aujourd'hui, il y en a 75, je crois, ou je peux me tromper à quelques-uns près. Donc, ce n'est pas possible de refaire un livre comme il avait été fait par des confrères il y a quelques années, où il devait y avoir 35 ou 36 vignerons.
Et ben c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter, Christian. Je conseille vraiment beaucoup ce livre donc, qui s'appelle « Le Pic Saint-Loup, la perle des Garrigues » par Christian Quessiol. Vous aurez bien sûr le nom sur le podcast, les liens pour arriver aussi à votre site. Et c'est aux éditions Alcide que je remercie beaucoup. Puis je vous dis à très vite, donc à la comédie du livre.
Il n'y a pas de souci, j'y serai.
Merci Christian, merci beaucoup.
Au revoir.
À très bientôt, au revoir.